France Culture.
Et vous écoutez France Culture. Cette créature cosmologique qui est à la fois un symbole impérial et populaire. Partons à la découverte du dragon dans les symboles et les légendes qui l'entourent. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui ce soir chevauchera le dragon, à tout le moins tentera de l'approcher à l'occasion de l'exposition qui se tient actuellement et jusqu'au 1er mars au musée du Quai Branly à Paris. Né il y a 5000 ans, petit comme le ver à soie ou enjambant l'horizon tel l'arc-en-ciel, imposant comme une montagne ou tapis dans les profondeurs de la terre, le dragon, emblème impérial, symbole de l'énergie, de vie et de la puissance cosmique qui est un pont entre les hommes et les dieux. Évocation de ce mythe asiatique en compagnie de Julien Rousseau, co-commissaire de l'exposition. Chronique en second temps d'émission signée Céline Duchesnay et Chaude Rose. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans une exposition balade, mais balade tout au long de l'extraordinaire figure du dragon, donc au Quai Branly. On va commencer bien évidemment par écouter la vision Laurent Polleret du dragon. Et je rappelle également que Mauvais Jean, on peut nous retrouver sur Facebook et sur Instagram avec Mauvais Jean FC.
Où es-tu ? Joli dragon !
Bonjour Julien Rousseau.
Bonjour.
Bah, vous êtes un habitué de l'émission. Je crois que c'est la troisième fois que l'on vient vous rendre visite à l'occasion d'une exposition sur le mauvais genre asiatique, si j'ose l'expression.
Et oui, c'est ça.
La première fois, c'était sur l'horreur japonaise, Jap Horror. Et la seconde, c'était sur les arts martiaux, toujours liés au Japon et à la Chine. Et là, c'est tout au long du dragon. Je dis tout au long du dragon, puisque devant nous, on en parlera à la fin de l'émission, on le voit déjà. Il y a un dragon du Nouvel An, très très long, que l'on porte avec des piquets et tout cela. On en parlera, donc tout au long du dragon. Ce soir, en compagnie de Céline Duchesnay, la dragonne de France Culture. Bonsoir.
Oui, j'aime bien cette dénomination.
Mais oui, c'est pas mal. Hein.
Le dragon, la dragonne sont en effet des êtres qui me sont chers, parce que pour moi, c'est vraiment le dragon, je dirais, des textes médiévaux, des légendes. Mais ayant passé toute mon enfance dans le 13e arrondissement de Paris, tous les ans, j'ai assisté au Nouvel An dit chinois et à la danse des dragons.
Très bien. Et donc, ce soir, vous allez effectuer pour nous la danse des dragons.
Promis.
En compagnie de Chaude Rose, qui, lui, est le fils d'une fée et d'un dragon. J'ignorais, dites-donc.
Oui, en fait.
Alors, ça se manifeste comment au quotidien, ce statut très spécial ?
Vraiment, si vous êtes sage, mais en fait, vous faites allusion à mes origines vietnamiennes par ma mère, qui, en fait, les Vietnamiens se disent, en fait, les descendants du dragon et de l'immortel.
Et les fées.
C'est l'immortel, la fée.
Ah, d'accord. Voilà, très bien. Julien Rousseau, que vous inspire ce démarrage d'émission ?
C'est bien parti. Parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter sur les dragons. On va le voir pendant l'émission.
Alors le dragon, de toute façon, c'est une figure à ce point universelle, proche, familière, à la fois dans les comparaisons, les métaphores, les rêveries, la littérature, les arts. Enfin, c'est véritablement un bien commun, un lieu commun universel. On parle de dragon de papier pour critiquer son rival. On parle du petit dragon dans les conflits économiques. J'ai même souvenir de Gustave Ashford, l'homme qui a écrit le roman d'où est tiré Full Metal Jacket, qui disait que la guerre du Vietnam, Dieu s'amusait à poser des tanks en plastique sur un filet de merde de dragon. Vous voyez, il y a donc des métaphores insoupçonnées qui apparaissent comme ça dans toutes les cadres et conditions. Alors cette exposition, le dragon étant universel, je le répète, comment s'est-elle construite? Avec quoi et quel est un peu son cadre précis, Julien Rousseau?
Alors, c'est exactement comme vous l'avez rappelé en introduction. Le dragon, c'est à la fois quelque part presque un cliché, hein, des arts d'Asie orientale et de Chine en particulier, d'où il est originaire. Mais finalement, on ne le connaît pas si bien que ça. Il n'y avait pas eu jusqu'à présent d'exposition vraiment monographique sur le dragon en tant que tel, puisque vous l'avez rappelé aussi en introduction, on l'évoque très souvent, le dragon, mais plus comme une image, comme un élément identitaire de la Chine ou de l'Asie orientale de manière plus générale. Mais finalement, il n'y avait jamais eu vraiment d'études spécifiques dans le cadre d'une exposition sur le dragon. Alors c'était l'idée de ce projet qui est né au départ d'un échange avec le Musée national du Palais de Taipei, donc à Taïwan, qui a prêté l'essentiel des œuvres et donc avec lequel donc l'exposition a été coproduite.
Donc Taïwan, dont on parle énormément en ce moment, est-ce une terre, c'est une île où la figure, le dragon, le mythe du dragon est particulièrement présent et commun à la population?
Oui, bien sûr, à Taïwan, comme en Chine et en Corée, aussi au Japon. Voilà, donc l'exposition plus spécifiquement s'intéresse aux origines chinoises du dragon. Voilà, parce qu'il n'a pas été possible pour des questions de place, voilà, matériel, tout simplement d'en faire plus, on aurait pu. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment sur les origines et le lien du dragon, donc au début, hein, vraiment au commencement de la civilisation chinoise, dès le néolithique, on le verra dans le parcours. Et puis à Taïwan, bien sûr, le dragon reste aujourd'hui une figure populaire, tout à fait contemporaine.
Très bien, eh bien, allons-y, entrons dans l'antre du dragon et commençons la visite de cette exposition avec Céline Duchesnet, des objets archéologiques, décoratifs.
Oui, la première chose qui frappe quand on arrive dans l'exposition, c'est peut-être le caractère hybride du dragon. On dit que le dragon peut être composé de 9 animaux, je crois. Donc peut-être qu'on pourrait revenir sur cette hybridité.
Oui, Julien Rousseau.
Oui, alors l'hybridité, en effet, c'est un des éléments essentiels qui a donné naissance à l'iconographie du dragon. Plus largement, c'est un élément essentiel du premier art chinois, puisque on le voit ici, notamment en regardant ces bronzes rituels qui sont exposés dans les premières vitrines. On voit que sur ces objets qui servaient en fait à l'époque, dès les premières dynasties, hein, depuis l'époque Chang, donc la première dynastie historique chinoise, les souverains avaient une fonction en quelque sorte chamanique, de communication avec leurs ancêtres, donc les ancêtres de la lignée royale, qui étaient des intermédiaires avec les divinités célestes, en particulier le dieu Di, qui apportait la force du ciel, c'est-à-dire les souffles célestes qui sont chargés de pluie, des nuages. Voilà. Le dragon est d'abord lié au ciel, aux nuages et la fonction vitale, donc céleste, dont l'intermédiaire était le souverain sur terre. Donc il utilisait ces rituels, ces bronzes rituels, pour offrir des nourritures, des boissons, voilà, parce que ce qui est important finalement aussi dans le rapport avec les dieux, c'est tout simplement de leur donner à manger, et de leur donner à boire et de leur offrir ce qu'on appelait donc ce banquet aux ancêtres royaux. Et ces créatures hybrides sont en quelque sorte des créatures des frontières qui renforcent cette fonction divine, rituelle de ces bronzes. On voit par exemple le Tao Tie qui est cette tête hybride qu'on peut voir à la fois on peut y voir deux figures affrontées de côté ou une seule figure de face. C'est en quelque sorte aussi un proto-dragon. Voilà, on ne sait pas trop, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de texte qui explique les significations de ces différentes iconographies. Mais en tout cas, c'est parmi ce bestiaire surnaturel et hybride que progressivement va s'élaborer la figure du dragon.
Mais alors, quels sont ces animaux qu'on pourrait reconnaître dans ces proto-dragons? Il y a les bois de serre, par exemple? Le corps, ce serait plutôt quoi?
On en voit là, dans cette vitrine. Là.
Alors, il y a plusieurs éléments. Donc, cette première art chinois qui s'intéresse beaucoup au surnaturel, utilise des éléments du réel, en fait, qu'il associe, donc qui donne ce caractère hybride qu'on retrouve sur le dragon. Donc, vous le disiez, 9 éléments sur le dragon. 9, on le verra plus tard dans l'exposition, c'est le chiffre parfait. Voilà. Hein, en Chine, c'est un chiffre porte-bonheur. Il associe donc des bois de cerf, notamment. Le cerf, c'est un animal qui est lié à l'aristocratie, à l'ancienne aristocratie, donc qui reste un signe de noblesse. Des griffes d'aigle, un corps à écailles de serpent, etc. Voilà, donc un ensemble d'éléments.
Chaudrose.
Ce qui est intéressant, en fait, quand en fait, en Occident, on connaît le dragon occidental, c'est de voir que cette créature, disons, mythique, est plutôt associée au liquide. Donc, un élément, bien sûr, quand on dit dragon, immédiatement, on pense dragon qui crache du feu. Or, en Chine et en toute l'Asie, et le Vietnam compris, en fait, le dragon est un animal qui est associé au fluide, aux nuages, à la pluie.
Oui, oui, exactement. Alors, c'est très différent. D'ailleurs, le dragon, je dirais, le dragon en Asie n'est pas ce qu'on appelle le dragon. En fait, on utilise ce terme simplement parce que c'est le terme le plus proche dont on dispose pour le désigner, mais c'est tout à fait autre chose. En fait, il y a simplement ce caractère hybride et cette ressemblance un petit peu formelle qui fait qu'on pourrait confondre les deux. Mais le dragon, qui apparaît donc en Asie orientale et qui s'est diffusé, vous l'avez raison, dans toute l'Asie orientale et même au-delà, est au départ lié à l'eau, non pas au feu. Et c'est pas du tout une créature maléfique, c'est une créature qui est liée au pouvoir vital et incontrôlable de la nature. Donc il a cette dimension ambivalente, source de vie comme de mort, mais il n'est pas du tout une créature liée au mal, sous cette forme.
Dans les vitrines, on voit ce qu'on appelle l'écriture du dragon, l'écriture des griffes du dragon.
Ce qui frappe, c'est en effet cet élément, vous venez de le dire, Julien Rousseau, l'humidité, l'eau. Donc on n'est pas étonné de voir des dessins avec de l'encre. Et on a là, sous les yeux, on a l'impression qu'il y a une grande tache qui s'est répandue sur une feuille de papier et qui a donné lieu à une tête de dragon. Et je rejoins Sean, ce qui est vraiment très intéressant, c'est de confronter notre dragon, je dirais, occidental, qu'on imagine encerclé de feu, produisant du feu, dans la terre, vivant dans des grottes, agressifs, au dragon qu'on va croiser dans cette exposition tout au long du parcours, où là, on est vraiment dans une forme d'humilité. On va le voir qui va apparaître à travers des nuages, sous des rideaux de pluie, et qui apporte... Il reste quand même assez effrayant, parce qu'il faut parfois maîtriser sa force, mais ça reste vraiment un élément extrêmement positif qui nous accompagne, là, je crois, tout le long de l'exposition. On va voir dans quel état on va en sortir.
On va finir.
Alors, le dragon, bien sûr, on parlait des origines du dragon. Il faut rappeler aussi son lien particulier, ben, vous le disiez, à l'écriture, puisque à l'époque Chang, on a vu des bronzes tout à l'heure sur lesquels on pouvait voir ces premières représentations hybrides dans lesquelles vont apparaître les dragons. Il y a aussi les premières écritures, puisque dès l'époque Chang, donc au milieu du deuxième millénaire avant notre ère, commencent à apparaître les premiers caractères évoquant le dragon. Il y en a déjà plus d'une centaine à l'époque qui assimilent à la fois le dragon au pouvoir rituel royal de communication avec le ciel, aussi à l'arc-en-ciel, puisque le dragon, c'est le lien entre le ciel et la terre. Voilà, donc c'est un lien très ancien à l'écriture, et aussi, je dirais, même d'une manière plus large, à la fonction même et au statut même de l'écriture en Chine d'époque ancienne, puisque l'écriture est liée à la connaissance, hein, à la culture des lettrés, la pratique du pinceau. Donc c'est à la fois la calligraphie et la peinture.
Et le dragon a été un motif pour la peinture très particulier puisqu'il incarne le souffle vital, ce qu'on appelle le chi, souffle vital universel qui est à la fois ce qui anime le geste de l'artiste, ce qui est l'essence même du sujet que l'encre va traduire sur le papier. Et c'est en quelque sorte l'origine et la finalité de la peinture, donc ce motif du dragon.
En fait, vous parlez du chi, le souffle, qui est en fait central dans la grande en fait sagesse, pensée chinoise, le Tao, qui anime l'écriture, d'où en fait presque une confusion. Il y a un très beau rouleau avec ce qu'on appelle la calligraphie, à tort d'ailleurs, puisque c'est shufa en chinois, et en fait c'est la loi de l'écriture. La loi de comment on doit écrire et qui est animée, en fait, on voit le souffle vraiment du pinceau qui est quand même dans une écriture cursive, pas du tout justement calligraphiée d'une manière extrêmement minutieuse, mais on sent vraiment le geste du poète.
Oui, oui, oui. En fait, c'est ce qu'on a essayé aussi d'expliquer, puisque le sujet du dragon servait aussi en quelque sorte à proposer. Une entrée, voilà, grand public dans les arts chinois, certains domaines artistiques aussi qui sont mal connus du public, comme la calligraphie, évidemment, quand on ne lit pas le chinois, on ne connaît pas. En fait, ce qu'on a essayé de montrer, c'est cette importance, en fait, de l'écriture, puisque la calligraphie et tout ce qui est lié au pinceau, donc aux arts des lettrés, c'est vraiment ce qui est considéré comme un art majeur en Chine, c'est ce qui est de plus valorisé, en fait, dans l'échelle des arts. Et effectivement, le tracé, l'acte même d'écriture est étroitement lié à la connaissance et à l'art dans sa forme la plus pure.
Julien Rousseau, les dragons qu'on aperçoit dans cette exposition sont donc, on l'a déjà dit, liés à l'humidité, la pluie, alors que nous, le dragon qu'on a en tête, j'ai par exemple le dragon qui est présent sur le drapeau du Pays de Galles, Saint-Georges terrassant le dragon, donc des dragons très menaçants qui ne viennent pas du tout de la culture chinoise. Donc on a l'impression que finalement, les dragons, quel que soit l'endroit où on est sur Terre, il a réussi à surgir, prendre peut-être des aspects quand même un petit peu similaires, il y a quelque chose de sinueux qu'on retrouve à chaque fois, mais avoir des fonctions complètement différentes.
Oui, bien sûr, on pourrait faire un anthropologie du dragon, j'imagine qu'il y a beaucoup de points communs, sa capacité à évoluer dans les différents éléments, l'eau, la terre, etc., son lien à la montagne aussi, on peut retrouver dans différentes mythologies, jusqu'en Amérique aussi, dans les cultures préhispaniques. Voilà, on pourrait retrouver des dragons un petit peu partout, mais c'est un sujet bien compliqué.
Mais en fait, ce qu'il y a de commun, comme le souligne Céline, c'est la puissance. Or, il semble que la puissance du dragon asiatique soit plus une puissance intérieure qu'on doit maîtriser ou qu'on doit invoquer, mais qui n'est pas extérieure comme la puissance du dragon occidental dans la culture européenne, qui est presque la force du mal qu'on doit vaincre, qu'on doit terrasser, comme Saint-Georges, comme on l'a évoqué, dans les peintures, l'iconographie. Et le dragon, ici, a cette ambivalence, mais c'est surtout la force quasi en soi, en fait. C'est cette force-là, en fait.
C'est effectivement un sujet, et ça a été un sujet tout au long de l'histoire de la Chine, puisque on verra en particulier à l'époque Qing, on raconte que l'empereur était mobilisé plus de 40 jours par an par des rituels justement qui cherchaient à contenir cette puissance du dragon. Les hommes n'ont eu de cesse en fait d'essayer de contrôler cette force incontrôlable de la nature. Et lorsque donc le dragon donne le mandat céleste à l'empereur, il peut aussi lui retirer en cas de sécheresse, de catastrophe naturelle, puisque ces catastrophes montraient qu'en fait le souverain n'était pas capable d'assumer sa fonction de contrôle du dragon, en quelque sorte, et c'est ce qui a causé la chute de certaines dynasties.
J'aime bien cette expression, on parlait du dragon intérieur. Quelque part, il y a une expression, soumettre le dragon et apprivoiser le tigre, ce qui veut dire donc c'est une capacité à surmonter les difficultés. Je trouve ça assez, assez joli. Et puis juste là, derrière François Angelier, il y a un dessin que je trouve très beau, qui est un paysage de montagnes, de lacs et de nuages avec un bleu superbe, un vert tendre. Et quand on s'approche, on a l'impression que le nuage est là, déposé dans le ciel. Et il faut vraiment s'approcher pour tout à coup distinguer à l'intérieur du nuage un dragon qui est en train de prendre son envol. C'est une très belle aussi image des dragons qui peuvent être représentés dans l'exposition.
Oui, effectivement, on a des très belles œuvres. On a vraiment des trésors qui ont été prêtés par le musée du Palais de Taipei, dont certaines peintures. Vous avez ici, et vous l'avez remarqué, ce bleu-vert qui est typique en fait de la peinture chinoise, qui apparaît à l'époque Tang, aux alentours du 7e, 8e siècle, et qui est un bleu-vert d'origine minérale et qui est, symboliquement représente cette force naturelle, en fait, hein, ce qu'on appelait le chi tout à l'heure, qui est lié à la fois aux cours d'eau, aux montagnes ou aux forêts, aussi aux arbres, et qui est une couleur symbolique toute particulière, puisque voilà, finalement, ce qui est très important et ce qu'on doit retenir peut-être de cette figure du dragon, c'est que finalement, les arts d'Asie orientaux et le dragon ses origines en Chine traduisent un rapport à la nature, en fait. La civilisation chinoise est une civilisation vraiment qui a une passion éternelle pour la nature.
Mais Julien Rousseau, c'est peut-être là la différence fondamentale avec le dragon occidental. C'est que le dragon occidental est un monstre retranché dans son antre ou dans des lieux comme ça, des anfractuosités menaçants et qu'on vient débusquer. Donc c'est comme une sorte de gibier, de proie ou de prédateur dans les deux sens. Citer la Tarasque, la célèbre Tarasque. Mais le dragon chinois, lui, est épars dans le paysage. Il est fondu dans le paysage. C'est une véritable, comme ça, de puissance immanente qui n'est pas localisée. C'est ça qui est frappant dans tout ce qu'on est en train de développer. C'est qu'il y a une sorte d'immersion de la figure et non pas de localisation comme le dragon occidental.
Alors, il y a différents niveaux de lecture, bien sûr, puisqu'il y a le dragon. On parlait tout à l'heure du taoïsme, par exemple. Le dragon, c'est la constellation de l'Est, la constellation du printemps, donc qui apparaît au moment où la nature se régénère, voilà, qu'il y a cette force vitale du dragon. Donc, il peut être localisé en lien à certains éléments naturels. Il y a des dragons qui habitent certaines grottes, certains cours d'eau, d'après des traditions locales aussi, des récits de tradition orale. Il y a des histoires de dragons, on verra tout à l'heure, et on parlait du lien aussi que peut avoir le dragon avec la dimension personnelle aussi qu'on peut lui donner, force et cette dimension philosophique, oui, personnelle. Le dragon qui est lié à la porte du dragon aussi, qui est lié à la vertu de courage et de réussite par le travail. Voilà, donc il y a plein d'histoires qui font que le dragon parfois peut être lié à des éléments, des lieux particuliers ou plus largement à une cosmologie là qui n'est pas identifiée à un lieu particulier et aussi on verra aux montagnes dans la peinture de paysages qui sont parfois assimilées aussi à des dragons.
Si vous n'étiez pas dragon, parce que on a devant nous tous les signes.
Petit secret.
Vous pouvez pas nous l'avouer. Quel est votre signe?
Ah non, moi je suis du chien.
Ah. Voilà. Donc. Et Sean?
Je suis coq. Phénix, voilà. Si on est chic.
Voilà.
Moi je suis rat. Je suis très fière d'être rat puisque dans la course qu'il y a eu entre les signes, c'est le premier à avoir gagné parce qu'il a sauté sur le dos du bœuf pour pouvoir arriver le premier sur la ligne.
Voilà.
Et Laurent Polleret, tiens, il est quoi?
Laurent Polleret?
Aucune idée.
Aucune idée, donc le signe absolu. Voilà, continuons à progresser en espérant que le dragon ne dévore pas le coq, le rat et le chien.
Le coq est à peine le soleil, le lever du soleil quand même, donc c'est déjà pas mal.
Ah bah voilà, donc...
D'ailleurs, on a ici la coupe au coq de l'empereur Qianlong, donc, qui était un des objets préférés de l'empereur, justement, et qui est une porcelaine d'un blanc parfait.
quand je suis allée voir l'exposition, il y avait un petit garçon qui pleurait devant cette vitrine parce qu'il avait découvert qu'il était coq et il disait à son grand-père « Je ne veux pas être un coq
». Nous entrons maintenant, Julien Rousseau, par la porte du dragon, qui est une porte quand même solennelle qu'on ne franchit pas impunément. Et nous allons à la rencontre du dragon impérial, puisqu'effectivement, pareille créature ne pouvait que, je dirais, être... pas dire récupérer, mot assez laid, mais d'une certaine façon capter, symboliser la figure de l'empereur avec une forme très particulière, la cinq griffes. Et quand on veut utiliser le dragon et qu'on n'est pas, je veux dire, ni empereur ni de la cour impériale, il faut quand même enlever quelques griffes pour ne pas être une sorte, commettre une sorte de profanation, Julien Rousseau.
Oui, oui, bien sûr. Ben, on l'a vu dès le début, hein, dès ses origines, le dragon est lié à une fonction royale de communication avec le ciel, puisque l'ordre du monde dans la civilisation chinoise repose sur la triade homme-ciel-terre, dans lequel les souverains jouaient un rôle essentiel de lien. Et donc c'est dès les premières dynasties et dès les premiers empires, en fait, à l'époque Qin et Han, que l'empereur est directement associé à la figure du dragon et à cette fonction justement de relation entre le ciel et la terre. Mais ce n'est que bien plus tard, aux alentours du XIIe siècle, et en particulier en 1111, qu'un édit est vraiment écrit et imposé à la population pour interdire l'usage et la représentation du dragon impérial, donc c'est-à-dire le dragon jaune à cinq griffes, en dehors du cercle des arts impériaux et de la figure de l'empereur. Donc, puisqu'autrefois, le dragon avait plutôt trois griffes, et c'est sous cette forme très codifiée et liée à son idéologie politique que le dragon va être vraiment réservé à l'empereur, sachant que la couleur jaune, c'est la couleur qui est liée au zénith, et justement à cette idée de relation entre le ciel et la terre, et qui incombait donc à l'empereur.
Chaune-rose.
Oui, en fait, là, il y a un glissement qui est intéressant parce que le dragon qui est tout à l'heure, qu'on a vu, qui est lié justement à la cosmogonie, aux forces, au souffle vital, qui est plutôt dans l'équilibre du monde taoïste, en fait, avec le yin et le yang, les forces femelles et mâles, etc. Là, on dirait récupéré par une idéologie des lettrés confucéens. C'est-à-dire qu'il va vraiment être la force de la puissance impériale. Le dragon va être un emblème, un animal récupéré par le pouvoir impérial.
Oui, voilà, c'est exactement ça. Je pense que c'est au départ une figure cosmologique. C'est pourquoi aussi le dragon a survécu, hein, finalement, aux empereurs jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il est une figure essentielle à toute une vision du monde et qu'elle a influé à la fois sur le taoïsme, le confucianisme, le bouddhisme aussi, puisque en venant d'Inde, le bouddhisme a confondu en fait les serpents mythiques indiens qui avaient été assimilés au bouddhisme autrefois avec les dragons chinois. Donc ce qui contribue aussi à sa complexité et à sa multitude de formes aussi, puisque le dragon dépasse finalement tous les fonds religieux qui existent en Chine.
Le dragon, vous l'avez dit, survit aux empereurs, puisque à la chute de l'Empire en 1911, le dragon est toujours là et aujourd'hui, il est toujours là. Donc, comment s'est fait ce glissement? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le dragon est présent, par exemple, dans beaucoup d'art populaire?
Parce qu'il l'a toujours été, je pense, parce qu'il a toujours été un symbole de force et de fertilité du ciel. Donc on a toujours voulu s'attirer des moments clés de la vie sociale, pour certaines festivités, des moments aussi plus personnels dans la vie d'une personne. Donc on le voit par exemple dans les vitrines à la fin de l'exposition sur des jouets d'enfants, des cadeaux de mariage ou encore des autels aux ancêtres. Donc à chaque fois on veut obtenir et rendre accessible à tous le prestige et la force du dragon.
Alors je vois le quotidien impérial, Julien Rousseau, ça veut dire que d'une certaine façon, l'empereur vivait aux côtés du dragon en permanence et appelait sa protection, on peut dire, avec des objets qui étaient des objets, je veux dire, d'usage courant et d'usage permanent.
Oui, le dragon, donc c'était un symbole omniprésent donc du pouvoir impérial. Et il a été, j'irais, d'autant plus à l'époque Qing, Donc, puisque les Qing, qui sont la dernière dynastie de Chine, étaient d'origine mandchoue. Donc, ils étaient considérés un petit peu comme des étrangers en Chine, donc par les populations Han, qui sont majoritaires en Chine. Donc, cette dynastie mandchoue a essayé de se rattacher au passé le plus ancien de la Chine, à ses rituels les plus anciens aussi, et à ses figures les plus classiques, dont le dragon. Donc, Qianlong n'a cessé en fait de collectionner les jades, les bronzes antiques, aussi la peinture, etc., pour montrer son attachement à la culture chinoise classique et à la figure du dragon, qui a été pour lui un marqueur vraiment de son identité chinoise.
La danse du dragon. François, est-ce que ce ne serait pas votre moment qui commencerait?
Oui, c'est le moment où je me mets à danser. Le moment où le producteur se prend pour un dragon. Là.
Mais justement, ces danses de dragon que nous, on connaît à travers les cérémonies du Nouvel An, est-ce qu'elles ont... D'où viennent-elles?
Alors, les danses du dragon sont liées certainement à des pratiques, elles aussi très anciennes, de gymnastique thérapeutique, de lien avec les anciens, avec l'origine aussi des arts martiaux, puisque très anciennement en Chine, on a pratiqué dès l'époque des premières dynasties, on a pratiqué des gymnastiques censées renforcer le corps et mettre le corps en relation avec les forces de la nature, et à travers des chorégraphies qui étaient liées à des mouvements d'animaux. Donc tout ça a une histoire très ancienne et très longue. En partie liée donc aux médecines et aux arts martiaux. Certainement, c'est une des origines des danses du lion et du dragon. Au-delà de ça, le dragon, on le disait, c'est l'incarnation du souffle vital universel, donc ce qui est indispensable au bien-être des hommes sur un lieu. C'est lié à l'urbanisme, à l'architecture, etc. Ce qu'on appelle le feng shui, en fait, c'est cette bonne circulation des flux d'énergie vitale et naturelle sur un lieu. Et donc le dragon, lorsqu'il va danser à l'occasion du Nouvel An ou pour l'ouverture d'un commerce, il va permettre cette bonne circulation des énergies vitales pour apporter prospérité, bien-être sur un lieu, en théorie avec ce qu'on appelle le feng shui en Chine.
Alors Julien Rousseau, on évoque l'empereur, son omnipotence, la manière dont il s'est associé l'image et les pouvoirs du dragon pour régner, et pour régner au mieux dans l'harmonie cosmique. Là, on est à côté d'une vitrine, une grande vitrine d'images populaires. On voit que le dragon n'a pas été d'une certaine façon capté totalement par l'empereur, mais qu'il a circulé dans une culture, la culture du peuple. Alors quels sont les objets présentés? Alors il y en a un, on peut déjà commencer peut-être par celui-là, je trouve extrêmement émouvant. C'est un jouet d'enfant en bois avec des roulettes vietnamiens du début du XXe siècle. Alors là... c'était pour que l'enfant prenne, je dirais, l'habitude de se figurer le dragon ou d'en user convenablement.
Oui, alors c'est un jouet du Vietnam, donc des années 30. On a beaucoup de collections de cette époque du Vietnam au musée. Le tigre, le dragon sont des animaux protecteurs aussi, donc qui sont souvent représentés sur les objets d'enfants. On connaît par exemple les bonnets du tigre. Le tigre, c'est un animal démonifuge, en fait, qui chasse les démons qui s'attaquent souvent à la tête et par l'arrière. Hein, ces traîtres, ils attaquent souvent par l'arrière, donc c'est pourquoi on a souvent ces motifs de protection dans le dos aussi. Donc les enfants, on les fait jouer avec des personnages de dragons. Hein, c'est un petit peu comme ces chiens ou ces animaux à roulettes avec lesquels jouent les enfants en Europe. Et voilà, le dragon, c'est un animal aussi de protection pour les enfants.
Et là, par exemple ?
Alors, ici, on a un manuscrit religieux de divination. Donc, on est dans le sud de la Chine, au nord de l'Asie du Sud-Est, donc chez des populations minoritaires, donc le manuscrit Yi, dans lequel voilà, on utilise le dragon pour représenter les origines des maladies ou des rituels de divination.
Céline ?
Ce qui surgit dans mon esprit, c'est toutes les représentations. On parlait d'art populaire, mais je pense aussi à des arts plus proches de nous, notamment au cinéma, au dessin animé, où on a aussi beaucoup de dragons. Mais j'ai le sentiment que les dragons qui sont arrivés jusqu'à nous ne sont peut-être pas spécialement passés par la Chine, ou en tout cas, ce sont peut-être plus des dragons japonais, ou alors j'ai aussi en tête des dragons occidentaux, par exemple Maléfique dans La Belle au Bois Dormant. Comment ces dragons sont-ils arrivés dans les dessins animés, dans le cinéma ?
Alors, il y a eu très peu, finalement, de représentations de dragons dans le cinéma en Chine, voilà, et y compris dans le cinéma hongkongais. Voilà, j'en ai cherché beaucoup, j'ai jamais trouvé, curieusement, plus
comment
récemment.
Comment on explique cette lacune ? C'est étrange, quand même.
Plus récemment, oui, des films plus récents, par exemple dans Détective D, voilà, on peut voir des dragons, mais c'est très... Alors, comment on l'explique ? Déjà parce que le surnaturel n'a pas été mis en scène au cinéma en Chine, voilà, c'est pas un sujet forcément autorisé. Ensuite, je sais pas, mais en tout cas, c'est beaucoup plus dans le cinéma d'animation japonais, à travers le manga, les animés aussi, qu'il y a eu beaucoup plus de représentations de dragons. Bien sûr, il y a Dragon Ball inspiré, ouais, du voyage vers l'Ouest, qui est un récit aussi chinois. Voilà, finalement, pas tant de dragons que ça dans les fictions chinoises.
Chaude rose.
Peut-être, justement, pour revenir au côté cosmogonique et de force, c'est comme si on représentait la pluie. En fait, c'est un animal qui est à la fois un animal et une force. Donc, en fait, c'est pas extérieur, comme le dragon côté race Saint-Georges qu'on a évoqué, ou les dragons qui martyrisent les saintes martyrs, etc. Donc peut-être que c'est ça, c'est comme presque un phénomène météorologique, donc ça se représente pas.
Peut-être, oui, c'est vrai. Il fait vraiment partie de l'ordre du monde, c'est pas un élément étranger à chasser, oui, c'est vrai.
J'aimerais qu'on termine, Julien Rousseau, avec deux dragons qui ne sont pas du tout chinois. Le premier est japonais, c'est Godzilla. Parce que Godzilla, qui est cité d'ailleurs dans le catalogue, c'est devenu, dans les années 50, en lien avec l'entrée dans l'ère atomique, les dévastations nucléaires, le feu nucléaire, le symbole justement de la menace atomique.
Voilà par exemple un dragon. Alors ce dragon-là, comment peut-on le lire à la lumière de tout ce qu'on vient de dire, tout ce qu'on vient de voir? Est-ce que c'est une création occidentale qui s'est d'une certaine façon greffée sur une crise politique et humaine asiatique à cette époque? Godzilla, comment vous, en tant que socialiste justement du dragon chinois, vous lisez Godzilla?
Ben, il a un peu tout ça à la fois. Je pense qu'on disait tout à l'heure, il y a le côté intérieur ou extérieur, c'est particulièrement vrai dans le cadre, parce que Godzilla, finalement, c'est ce qu'on appelle un alien, donc c'est un étranger.
Ouais.
C'est une force étrangère qui est née d'un désordre, qui est née des catastrophes nucléaires, de l'après-guerre, etc. Et donc Godzilla était en gestation dans les mers, et donc il est sorti, et on entend ses pas trembler derrière la montagne lorsqu'il se manifeste et qu'il allait détruire des villes entières, un petit peu comme au son d'une bombe atomique. Mais à la différence du dragon, il représente le danger d'une nature qui a été menacée par la main de l'homme. Donc le rapport s'est inversé, puisque le dragon, c'était plutôt une représentation d'une nature que l'on cherchait à contrôler via des rituels et une bonne gestion aussi des éléments naturels. Aujourd'hui, ces monstres, ces aliens, ils viennent manifester une nature qui est dérégulée directement de la main de l'homme. Mais quelque part, ils apportent aussi une idée assez, parce que ce qu'on appelle les kaiju, ces monstres géants,
oui,
et apocalyptiques.
Oui, parce qu'il n'y a pas que le dragon
culture japonaise.
Dans le cinéma populaire, il y a aussi des mythes, des toute une série d'animaux qui sont convoqués pour rivaliser avec Godzilla.
Oui, bien sûr, il y en a eu d'autres. Il y a eu Godzilla. Godzilla, c'est quand même la licence la plus longue, une des plus longues de l'histoire
cinématographique.
Oui. Mais quelque part, ils apportent quelque chose d'assez positif et peut-être assez comparable aux dragons, c'est qu'à travers leur lutte, les hommes vont finalement se libérer ou contrôler ces créatures magnifiques pour rapporter, reconstruire un monde nouveau, plus en accord avec
Céline.
La nature.
Non, la question que je me posais, c'est que finalement, l'absence du dragon traditionnel, je dirais, d'origine chinoise dans nos récits d'aujourd'hui, est-ce que c'est pas une preuve aussi que le dragon tel qu'il était, cet être qui était capable de rendre harmonieux le ciel, la terre et les êtres humains, n'a plus sa place parce que la terre est juste dévastée. On est quand même dans une représentation du monde assez apocalyptique, je trouve, maintenant, et on a du mal à imaginer un dragon en toute puissance qui traverse les nuages, qui fasse surgir une pluie bienfaisante pour nous autres humains qui abîmons la Terre.
Oui, c'est toute la question, je dirais, philosophique et cosmologique que pose le dragon aujourd'hui. C'est un petit peu l'idée de la vidéo, de la création vidéo de l'artiste Yang Yongliang qu'on voit au début de l'exposition. On voit ce dragon qui n'a rien perdu de son mystère, qui évolue dans une création vidéo qui évoque une peinture monochrome classique. On ne sait pas si on est dans un décor de l'Antiquité ou si on est dans un décor de nuages, de pollution urbaine contemporaine, puisque ce dragon, finalement, il ne cesse d'évoluer et on ne sait plus s'il contrôle ou non ces éléments naturels totalement dérégulés aujourd'hui.
Alors, on va se diriger maintenant vers le long dragon de Nouvel An qui clôt et qui parachève le bouquet final de l'exposition. Mais sur le chemin, Julien Rousseau, je vais encore vous taquiner avec un autre dragon non-asiatique, qui est les derniers dragons à avoir une gloire médiatique mondiale, c'est Game of Thrones. Il y a des dragons, il y a une mer des dragons, il y a des œufs de dragons, on les voit croître. Et en plus, ils deviennent ensuite des espèces d'animaux au service des ambitions humaines et qui crachent le froid. Alors, comment vous, là aussi, deuxième question, vous lisez les dragons de Game of Thrones?
Aujourd'hui, évidemment, il y a une...
Les dragons qu'on chevauche, là, je reviens à l'image du début.
Alors, le dragon chinois, si j'allais dire, on ne peut pas le chevaucher, mais si on voit, les divinités peuvent le chevaucher, notamment il peut servir de véhicule aux immortels dans le taoïsme. Je pense que le dragon, dans les fictions contemporaines, qu'elles soient asiatiques ou produites dans le reste du monde. Et c'est mondialisé, hein, en quelque sorte. Voilà, dans les fictions, on peut voir à la fois une influence du dragon chinois qui est lié au nuage, à la pluie, ou au contraire, un dragon plus incarnation des forces du mal, au feu, etc. Donc tout ça se mélange, je pense, dans des formes vraiment originales qui puisent plus ou moins dans des mythologies.
Ça, c'est un animal ouvert, c'est un imaginaire ouvert, d'une certaine façon. On fait un peu aujourd'hui ce que l'on veut avec le... Oui. Le dragon à volonté,
voilà,
dirons-nous.
Et il l'a d'ailleurs toujours été, hein, finalement, parce qu'on le voit aussi dans l'exposition, les formes de dragons, les récits populaires sur les dragons qui sont liés à certains lieux, sont aussi des créations populaires contemporaines de leur époque.
Céline,
eh bien, on est à quelques semaines du nouvel an asiatique et je pense qu'il est temps de décrire le très très long dragon que nous avons derrière nous, qui doit faire, je ne sais pas, peut-être une vingtaine de mètres. À nous de nous mettre en dessous et de l'actionner afin de enfin porter, faire cette danse du dragon que voilà. J'attends depuis si longtemps.
On ne va pas quand même toucher au bel ordonnancement qui
bon
a
endroit.
Été créé pour l'exposition.
Pour le démontage, on pourra...
Oui, voilà, pour le...
manipuler si vous voulez.
Vous nous faites signe, on reviendra pour danser avec le dragon. Alors, il vient d'où d'ailleurs, dragon ? Il est de construction parisienne,
alors, c'est un
taïwanaise,
dragon vietnamien.
Ouais, vietnamien.
Qui a été prêté par l'association Paris Lion Sport, donc une association de danse du lion et du dragon parisienne, voilà, qui a eu la gentillesse de nous les prêter pour terminer le parcours de l'exposition. Et puis on voit d'ailleurs les danseurs de l'association au cours d'un spectacle qui a été filmé spécialement pour l'exposition juste à côté.
Merci Julien Rousseau pour
Merci
cette visite au long du dragon, avec toutes ses mutations, ses pouvoirs, ses symboles, son utilisation politique, populaire, sociale. Très belle exposition, donc on peut voir au Quai Branly, musée du Quai Branly à Paris jusqu'au
1er mars.
Jusqu'au 1er mars, merci à Céline Duchesnay, donc née sous le signe du dragon, et à Chaune Rose également, fils du dragon. Bien après cette visite tout au long de l'exposition Dragon du Quai Branly, on passe aux chroniques dans Mauvais Genre. Et l'on commence bien évidemment par l'almanach de l'étrange.
Dompteuse d'aiguilles et de feu, amoureuse des agrafeuses, Mona Ladol est une performeuse et cabarettiste née en 2000 qui, selon ses propres termes, saigne, se met nue et raconte des histoires. En utilisant les feuillages burlesques, les éventails de plumes, mais aussi des aiguilles qui transpercent, du feu qu'elle peut lécher ou même embrasser, Mona Ladol semble pousser son corps dans des extrêmes, mais toujours avec une tension dramatique pleine de sensualité. On retient son visage doux et impassible lorsqu'elle se plante des aiguilles dans tout le corps, des aiguilles sur lesquelles sont accrochées des roses qui, au fil du numéro, la transforment en bouquet de fleurs, d'où s'échappent de longues et fines rigoles de sang. Au cabaret, Mona Ladol est aussi une conteuse. Elle aime mettre en lumière le destin des frics, ceux qu'on a longtemps appelés des monstres, parce que leur corps était hors norme. l'axe majeur de son travail, explique-t-elle, est d'utiliser l'héritage des freak shows pour susciter l'empathie du public envers les corps non normés d'aujourd'hui, comme ceux des personnes trans dont elle fait partie. En témoigne son numéro sur Annie Jones, artiste états-unienne née en 1865 et morte en 1902, ayant travaillé pour le cirque Barnum.
Un peu par hasard, je suis tombé sur une image d'Annie Jones en rassemblant des iconographies des monstres. Et c'était une des premières images de femme à barbe avec le mot « merveille » écrit en titre en dessus d'elle. Et après moult recherches, j'ai trouvé que Annie Jones était une des premières femmes à barbe à avoir créé un syndicat des monstres dans lequel elle avait ordonné à son directeur du cirque de ne plus être qualifié avec ses collègues en tant que monstre en tête d'affiche ou au sein du cirque, mais d'être qualifié comme des merveilles. Car selon elle, la merveille, tout comme la monstruosité, n'était pas créée par nature, mais créée par la perception des autres. C'est ça, moi, qui m'a intéressé. C'est comment, déjà, dans les années 1860-70, elle a commencé à créer des syndicats révolutionnaires contre les oppressions qu'elle subissait. Et qu'elle a créé quelque chose de galvanisant avec ses amis les monstres en disant « Vous nous enfermez ensemble, eh bien ensemble, on sera plus forts. » Et je trouve ça très inspirant pour nous, en tant que personnes queer, mais aussi en éducation, pour un public qui n'est pas concerné par ces vécus-là.
Dans son numéro, face au public, Mona Ladol déroule l'histoire d'Annie Jones qui fait écho à son vécu de femme trans. Elle s'interroge. Serait-elle une femme à barbe des temps modernes ? Et d'ajouter que sa monstruosité, celle pour laquelle on la pointe du doigt, celle pour laquelle elle subit tant de violences physiques et morales, peut-être que c'est ça, sa merveille. Mona Ladol permet ainsi au public, dans un geste aussi politique qu'esthétique, de s'interroger sur la différence qui peut faire peur, ainsi que sur l'altérité. Pour retrouver Mona Ladol, vous pourrez vous rendre à Pins and Needles, son freak show avant-gardiste qui évoque l'héritage des monstres en faisant du cabaret un miroir du monde actuel. Et cela se passera au Cirque Électrique à Paris les 23 et 24 janvier. Toute son actualité est à retrouver sur l'Almanach de l'Étrange et sur son site www.monaguillard, ainsi que sur les réseaux.
Merci Céline pour cette présentation de Mona Ladol. On passe maintenant à la chronique de Sean Rose.
Alors, on ne va pas voir totalement des dragons, mais on va voir au moins une chimère d'un artiste qui s'appelle Jean Dampte, D-A-M-P-T, donc un artiste originaire de Dijon, ou plutôt de sa région, donc qui est né en 1854 et mort en 1945. Et c'est un artiste auquel consacre une expo monographique d'ampleur, le musée de Dijon. Pourquoi on va voir cette chimère ? C'est parce que cet artiste qui est très, très polymorphe, qui a été à la fois institutionnel, parce qu'il a eu des commandes publiques, mais qui a surtout été dans le mouvement néo-gothique qui a pris le 19e siècle en réaction justement à la révolution industrielle, aussi au positivisme. Et il a fait d'extraordinaires choses d'objets et surtout de sculptures, donc du Moyen-Âge dont il s'inspirait. Il a une forme de sculpture un peu courbe qui ressemble aussi à l'Art Nouveau. Et donc c'est une redécouverte. Et alors sa période la plus intéressante, parce qu'il a été justement artiste assez institutionnel, donc c'est vrai qu'il y a une partie double de cet homme qui était un bourguignon, qui voulait se montrer comme une espèce d'artisan en tablier, qui s'habillait un peu de manière un peu fantasque avec un chapeau Velasquez ou une cravate Renaissance. Donc il a été connu par le grand public parce qu'il était dans tous les grands salons chaque année. Il a fait la niche où il y a de l'hôtel de ville où il y a Boule, la statue de Boule. Mais ce sculpteur qui voulait être un imagier surtout, un tailleur d'images comme ces tailleurs de pierre du Moyen-Âge, a fait des choses complètement fantasque et étrange, comme cette sculpture qui s'appelle donc La fin du rêve, qui date de 1889, où on voit une jeune fille pensive, mais en fait complètement brisée. Elle a un lys qui est cassé et il y a cette chimère qui s'envole, un peu comme son rêve d'amour qui est parti. Donc cette chimère qui ressemble tout à fait un dragon d'ailleurs. C'est son le goût de Dante pour les pour le, la mystique. Il a fait le premier salon Rose-Croix. Il était proche Péladan. La période très intéressante, il y a toute une série sur l'enfance. Il était fasciné par les images d'enfants. Alors, il a fait un Duguesclin enfant. Donc, ça, c'est assez étrange, un Duguesclin enfant. Et surtout, il a fait son chef-d'œuvre, sa porte de l'enfer, si je puis dire, à la Rodin, pour reprendre cette image du chef-d'œuvre de Rodin. C'est le lit des heures, 1896. Alors là, c'est un lit gothique extraordinaire, avec des anges, toutes sortes de symboles. Alors ça, sa période symboliste qui est à mon avis la plus intéressante, il a fait une petite sculpture de Mélusine embrassant un chevalier et ça inspiré de Jean Lorrain, donc tout à fait voilà, tout à fait mauvais genre et à découvrir au musée de Dijon.
Chaude Rose, l'émission remercie également Alexandre Olin d'avoir contribué largement à la préparation de cette visite chez les Dragons. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Alexandra Bergel, Claire Poissignon, Céline Duchesnet, Claire Martin-Dugard, Chaude Rose et François Angelier vous remercient d'avoir écouté Mauvais Genre. On se retrouve la semaine prochaine avec Sylvain Kermissi et Aurélien Masson.